invité ce matin, Émeric Caron, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, essayiste, ancien chroniqueur, on le rappelle encore, parce que ça
commence à dater.
C'est des souvenirs pour le public dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Vous venez de sortir un livre, La revanche de la nature, sous-titré 27 leçons pour le monde de demain, sorte de journal de confinement dans lequel vous tirez les leçons de la crise du coronavirus. Un avertissement, dites-vous, des catastrophes à venir si nous ne faisons rien. Ce livre, Émeric Caron, il commence par cette phrase. S'il n'était meurtrier, ce virus me serait sympathique. Sympathique, le coronavirus? C'est sérieux ou c'est ironique?
Mais, oui, c'est pour ça que je prends la précaution d'écrire s'il n'était meurtrier. Ouais. Sympathique parce que ce qu'il a engendré sur un plan personnel m'était pas désagréable, à savoir tout à coup me retrouver chez moi pour pouvoir un peu prendre le temps des choses, observer une pause dans l'hyper rapidité qu'on nous impose à tous chaque jour, avoir le temps de réfléchir, la déconsommation qui nous est imposée grâce à l'arrêt de l'économie.
C'était une bonne chose, l'arrêt de l'économie, vous voyez tout ça d'un bon œil ?
Ce qui est dramatique aujourd'hui, bien évidemment, ce sont les conséquences très concrètes du moment pour des millions et des millions, et même dans le monde, des centaines de millions de personnes, qui, souvent d'ailleurs les plus pauvres, ceux qui ont été les plus impactés, ce sont quand même les classes sociales les moins favorisées. Les plus riches, eux, ils n'ont pas pâti de cette crise. Jeff Bezos, le plus riche du monde, d'ailleurs, lui, s'est largement enrichi pendant cette crise du coronavirus. En revanche, pour la planète, pour l'environnement, oui, cette période pendant laquelle on a beaucoup moins consommé, elle est intéressante. On a bien vu que les émissions de gaz à effet de serre ont largement décru. Tout à coup, on est rentré dans les critères qui nous sont imposés par l'accord de Paris pour pouvoir espérer limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors bien évidemment, ce qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas du tout les leviers qui ont été mis en place, qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Ce sont nos manières à nous de gérer cette déconsommation, donc cette baisse de productivité, parce que ça met des gens au chômage. Mais si on avait, parallèlement à cela, des mécanismes de solidarité efficaces, ça ne poserait pas de problème.
Ouais, le confinement, c'était pour vous une sorte de modèle du monde d'après,
non,
du monde
pas un
sur
modèle,
lequel on pourrait
on était
bâtir
même,
le monde d'après ?
Non, parce qu'on était quand même tous... échouer sur des îles, sur des îlots qui étaient nos appartements ou nos maisons. On était quand même extrêmement coupés les uns des autres, on était connectés quasiment que par des moyens informatiques, donc c'est pas non plus le monde dont je rêve. En revanche, cette idée de ralentir, de prendre son temps, de moins acheter, de moins se déplacer pour de l'inutile, même de couper certaines relations sociales qui n'ont aucun intérêt en réalité bien souvent, puisqu'on est quand même dans une espèce de jeu de rôle permanent avec énormément de fausseté. Tout à coup, il y avait la nécessité de réfléchir à l'essentiel. Et on se rend compte tout à coup qu'il y a quand même que nos vies en général, dans le système actuel, donc qui est rythmé par la logique néolibérale, eh bien nos vies sont quand même consacrées à beaucoup d'inutiles. Et tout à coup, cet inutile, on le mettait de côté. Ça, c'est intéressant. Je pense que quand je parle d'avertissement lancé par ce virus, bien évidemment, c'est une image, mais c'est pour dire que cette crise est une crise écologique, dans le sens où le virus est un phénomène biologique, naturel, qui est provoqué ou encouragé, en tout cas, par les comportements humains à l'égard du vivant, puisque vous savez que les virus se propagent d'autant plus que l'on détruit des forêts.
C'est notre faute, l'apparition de ce virus, faute du monde qu'on a créé.
Alors, il faut être très prudent lorsqu'on parle effectivement d'une faute humaine, parce que les virus, bien évidemment, existent depuis des milliards d'années. Ils existent bien avant l'apparition des humains. Ils ont d'ailleurs joué un rôle essentiel dans l'évolution de la vie, puisque ce sont aux virus qu'on doit, par exemple, l'apparition du placenta, qu'on doit l'apparition des cellules complexes, etc., etc. Donc, ce sont les virus jouent un rôle très actif dans l'évolution du vivant. En revanche, les zoonoses, c'est-à-dire ces virus qui transmettent des animaux aux humains et qui nous posent énormément de problèmes, sont apparus à l'époque du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à élever des animaux. Donc c'est bien notre manière initiale de traiter ces animaux qui fait que tout à coup, nous, y a des maladies qui nous sont transmises que sinon on n'aurait jamais su.
C'est la nature qui se venge, d'où le titre du livre.
Oui, alors bien sûr, c'est pas que je prête à la nature un dessin, c'est une image, une fois de plus. Mais le fait est que lorsqu'on détruit des forêts, lorsque l'on déforeste des endroits, eh bien, cela crée un rapprochement entre les animaux sauvages et les humains qui favorise la propagation des virus. Lorsque, par ailleurs, on organise la vente de ces animaux et la tuerie de ces animaux sur des marchés qui sont pas sauvages, mais en tout cas qui sont organisés dans des dans des circonstances sanitaires extrêmement douteuses, bien évidemment, là aussi on favorise la propagation des virus, de la même manière que les élevages intensifs favorisent aussi la propagation des virus. Donc oui, notre manière de traiter le vivant a favorisé la pandémie.
Vous le sortez assez rapidement, ce livre, Émeric Caron. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence ? Parce que le monde d'après, il est déjà en train de
D'abord parce que, d'un point de vue éditorial, c'est un journal, comme vous l'avez noté, donc ça commence au premier jour du confinement, de notre confinement à nous, et ça se termine le dernier jour de notre confinement. Il n'y avait donc pas un énorme travail éditorial supplémentaire à faire. Une fois que le confinement était terminé, il était prêt à sortir. Donc, en effet, on a juste précipité la sortie de quelques semaines par rapport à un processus plus classique dans l'édition. Mais tout simplement parce que cette urgence de sortie, elle est liée au fait que les mesures de l'après-virus, même si une fois de plus, c'est pas fini, on parle de cette deuxième vague qui pourrait arriver, etc. Mais en tout cas, les premières mesures économiques, notamment, elles sont prises en ce moment. Et qu'on est en train, en ce moment, de décider de la politique que nous allons subir dans les 2, 3, 4, 5 années à venir.
Et est-ce que justement,
il faudrait changer tout de suite de modèle.
Est-ce que justement ces premières mesures et les premiers comportements aussi de nos concitoyens, elles vont pas dans votre sens, Émeric Caron ?
Pas du tout.
On a quand même l'impression que les gens, ils ont envie de retrouver le plus vite possible le monde d'avant.
Pas tous.
Et pas un autre monde.
Non, pas tous. C'est qu'on commence à faire des sondages, on se rend compte que beaucoup de gens ont pris conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements de notre système actuel. Il y a un sondage de Greenpeace, par exemple, qui est sorti la semaine dernière, qui l'exprime de manière extrêmement claire. En revanche, ce que l'on observe, bien sûr, je vais pas non plus vous mentir, j'observe comme vous que il y a des tas de gens qui se sont précipités immédiatement pour faire la queue devant les McDonald's dès qu'ils en ont eu l'occasion, ou alors pour aller acheter la dernière PS4 qui était en promo chez nous dans un magasin. Donc, bien sûr, évidemment, la société de consommation, elle n'a pas quitté l'imaginaire des citoyens comme ça du jour au lendemain. Les habitudes, elles ne peuvent pas s'enlever comme ça en 2-3 jours. En revanche, il y a vraiment quand même un décalage entre les politiques, ceux qui nous gouvernent, et la prise de conscience des citoyens, qui eux, majoritairement, j'en suis absolument convaincu, savent qu'il faut aujourd'hui changer de modèle politique et économique, puisque c'est le modèle économique qui nous mène vraiment à la catastrophe. Et aujourd'hui, c'est vrai que les politiques n'ont rien compris, puisqu'ils continuent à promouvoir le modèle d'avant, mais même à le consolider, puisque la réponse aujourd'hui, c'est vite, il faut encore plus consommer, il faut encore plus produire, il faut qu'on rattrape notre retard de PIB. Zut, on va perdre 10 points de PIB à la fin de l'année en raison de cette crise. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de les rattraper, etc. Donc on va faire encore plus de concessions sur les droits du travail, on va essayer d'exploiter encore plus, on encourage les gens à acheter, etc. Donc je pense que ça va exactement dans le sens contraire de la sagesse.
Vous écrivez, Émeric Caron, le virus, c'est un problème mécanique dans le train qui va à toute vitesse qu'est le monde. La prochaine fois, ce sera le déraillement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour éviter que le train déraille, selon vous, Émeric ?
Il faudrait prendre des mesures vraiment radicales, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout repenser. Il faut, je cite un certain nombre de penseurs qui sont essentiels. Aujourd'hui, il y en a un qui sont des penseurs du XXe siècle, qui ont pensé notre rapport à la modernité, à la technique, au fait qu'aujourd'hui, nous sommes complètement dépassés par nos capacités de production, qui dépassent largement nos capacités d'imagination, comme aurait dit Günther Anders. Mais Cornelius Castoriadis, par exemple, lui, nous invitait à changer d'imaginaire. Notre imaginaire aujourd'hui tourne uniquement autour de la question de la croissance, du développement. C'est-à-dire que depuis 100 ans, depuis 200 ans, nous sommes persuadés, nous sommes élevés dans l'idée que dès que nous naissons sur cette planète, nous avons un objectif, c'est croître, nous développer. Donc c'est à titre personnel, c'est le cas, hein, il faut s'enrichir, il faut occuper une position sociale bien particulière, et à titre collectif, c'est faire en sorte que notre pays soit de plus en plus riche, que l'économie se développe. Elle se développe comment ? Eh bien tout simplement en allant extraire de plus en plus de ressources et en les exploitant au maximum. Imaginons que nous changeons d'imaginaire et que notre axe central ne soit plus la recherche du développement, donc la croissance, mais que ce soit autre chose, que tout à coup nous prenions conscience, et là c'est plutôt vers Hans Jonas que je vais me tourner, c'est-à-dire que nous prenions conscience de notre position très particulière d'espèce dominante sur cette planète et de la responsabilité que ce statut nous confère. Responsabilité qui consiste à prendre soin de tout ce vivant qui nous entoure au lieu de le détruire. Et c'est réintroduire à notre imaginaire la notion de limite.
Ouais,
parce que depuis 100 ou 200 ans, nous sommes persuadés qu'il n'y a aucune limite. Nous sommes élevés aussi pour ça, en disant tu peux tout. L'individuel et le collectif sont étroitement liés. Il se trouve que la planète a des limites. Le capitalisme est confronté à un moment à des limites. Tous ceux qui sérieusement pensaient le capitalisme depuis 100 ou 200 ans, eux-mêmes le disaient, même les économistes libéraux disaient qu'un jour il faudrait arrêter la croissance.
Mais en quelques mots, quand on voit les politiques menées aux États-Unis, en Chine, Émeric Caron, vous pensez que le monde il est prêt à abandonner cette
politique-là ? Alors je vais vous dire, le monde est prêt. Les hommes politiques ne le sont pas. Il se trouve qu'aujourd'hui le pouvoir a été confisqué en grande partie aux citoyens, au peuple. Il est entre les mains des financiers, des industriels, qui gouvernent main dans la main avec des politiques qui leur sont soumis, et ce sont leurs candidats, bien souvent, qui dirigent les pays. Mais je crois que de plus en plus, on va observer, dans les mois et les années qui viennent, un décalage total entre la population, qui prend réellement conscience de la crise en cours et des changements radicaux qu'il faudrait mettre en place, et ses politiques. Et donc, on entre dans une autre phase du problème, qui est la crise de démocratie.
La revanche de la nature, 27 leçons pour le monde d'après, c'est paru chez Albin Michel.